C'est que madame avait un frère, établi menuisier en leur pays natal, Virville, dans l'Eure. Du temps que madame était encore aubergiste à Yvetot, elle avait tenu sur les fonds baptismaux la fille de ce frère qu'elle nomma Constance, Constance Rivet, étant elle-même une Rivet par son père. Le menuisier qui savait sa sœur en bonne position ne la perdait pas de vue, bien qu'ils ne se rencontrassent pas souvent, retenus tous les deux par leurs occupations et habitant du reste loin l'un de l'autre. Mais comme la fillette allait avoir 12 ans et faisait cette année-là sa première communion, il saisit cette occasion d'un rapprochement, il écrivit à sa sœur qu'il comptait sur elle pour la cérémonie. Les vieux parents étaient morts, elle ne pouvait refuser à sa famille. Elle accepta. Son frère, qui s'appelait Joseph, espérait qu'à force de prévenance, il arriverait peut-être à obtenir qu'on fît un testament en faveur de la petite, madame étant sans enfant. La profession de sa sœur ne gênait nullement ses scrupules, et du reste, personne dans le pays ne savait rien. On disait seulement en parlant d'elle, « Madame Tellier est une bourgeoise de Fécamp », ce qui laissait supposer qu'elle pouvait vivre de ses rentes. De Fécamp à Virville, on comptait au moins 20 lieues. Et 20 lieues de terre, pour des paysans, sont plus difficiles à franchir que l'océan pour un civilisé. Les gens de Virville n'avaient jamais dépassé Rouen. Rien n'attirait ceux de Fécamp dans un petit village de 500 feux, perdu au milieu des plaines et faisant partie d'un autre département. Enfin, on ne savait rien. Mais l'époque de la communion approchant, madame éprouva un grand embarras. Elle n'avait point de sous-maîtresse et ne se souciait nullement de laisser sa maison même pendant un jour. Toutes les rivalités entre les dames d'en haut et celles d'en bas éclateraient infailliblement. Puis Frédéric se griserait sans doute et quand il était gris, il assommait les gens pour un oui ou pour un non. Enfin, elle se décida à amener tout son monde, sauf le garçon, à qui elle donna sa liberté jusqu'au surlendemain. Le frère consulté ne fit aucune opposition et se chargea de loger la compagnie entière pour une nuit. Donc, le samedi matin, le train express de 8 heures emportait madame et ses compagnes dans un wagon de seconde classe. Jusqu'à Beuzeville, elles furent seules et jacassèrent comme des pies. Mais à cette gare, un couple monta. L'homme, vieux paysan vêtu d'une blouse bleue avec un col plissé, des manches larges serrées au poignet et ornées d'une petite broderie blanche, couvert d'un antique chapeau de forme haute dont le poil roussi semblait hérissé, tenait d'une main un immense parapluie vert et de l'autre un vaste panier qui laissait passer les têtes effarées de 3 canards. La femme, raide en sa toilette rustique, avait une physionomie de poule avec un nez pointu comme un bec. Elle s'assit en face de son homme et demeura sans bouger, saisie de se trouver au milieu d'une aussi belle société. Et c'était en effet, dans le wagon, un éblouissement de couleurs éclatantes. Madame, tout en bleu, en soie bleue, des pieds à la tête, portait là-dessus un châle de faux cachemire français, rouge, aveuglant, fulgurant. Fernande soufflait dans une robe écossaise dont le corsage lacé à toute force par ses compagnes soulevait sa croulante poitrine en un double dôme toujours agité qui semblait liquide sous l'étoffe. Raphaël, avec une coiffure emplumée, simulant un nid plein d'oiseaux, portait une toilette lilas pailletée d'or, quelque chose d'oriental qui s'égayait à sa physionomie de juive. Rosa Larosse, en jupe rose à large volant, avait l'air d'une enfant trop grasse, d'une naine obèse. Et les deux pompes semblaient s'être taillées des accoutrements étranges au milieu de vieux rideaux de fenêtres, ces vieux rideaux à ramages datant de la Restauration. Sitôt qu'elles ne furent plus seules dans le compartiment, ces dames prirent une contenance grave et se mirent à parler de choses relevées pour donner bonne opinion d'elles. Mais à Bolbec, apparut un monsieur à favoris blonds avec des bagues et une chaîne en or qui mit dans le filet sur sa tête plusieurs paquets enveloppés de toile cirée. Il avait un air farceur et bon enfant. Il salua, sourit et demanda avec aisance « Ces dames changent de garnison ?» Cette question jeta dans le groupe une confusion embarrassée. Madame enfin reprit contenance et elle répondit sèchement pour venger l'honneur du corps « Vous pourriez bien être poli !» Il s'excusa. « Pardon, je voulais dire de monastère. » Madame, ne trouvant rien à répliquer ou jugeant peut-être la rectification suffisante, fit un salut digne en pinçant les lèvres. Alors le monsieur, qui se trouvait assis entre Rosa Larosse et le vieux paysan, se mit à cligner de l'œil aux trois canards dont les têtes sortaient du grand panier. Puis, quand il sentit qu'il captivait déjà son public, il commença à chatouiller ces animaux sous le bec en leur tenant des discours drôles pour dérider la société. « Nous avons quitté notre petite mamare, coin, 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 pour faire connaissance avec la petite brobroche, coin, coin, coin. » Les malheureuses bêtes tournaient le cou afin d'éviter ses caresses, faisaient des efforts affreux pour sortir de leur prison d'osier, puis soudain, toutes trois ensemble poussèrent un lamentable cri de détresse. « Coin, coin, coin !» Alors ce fut une explosion de rire parmi les femmes. Elles se penchaient, elles se poussaient pour voir. On s'intéressait follement au canard, et le monsieur redoublait de grâce, d'esprit et d'agacerie. Rosa s'en mêla, et se penchant par-dessus les jambes de son voisin, elle embrassa les trois bêtes sur le nez. Aussitôt chaque femme voulut les baiser à son tour, et le monsieur asseyait ses dames sur ses genoux, les faisait sauter, les pincer, tout à coup il les tutoya. Les deux paysans, plus affolés encore que leur volaille, roulaient des yeux de possédés sans oser faire un mouvement, et leur vieille figure plissée n'avait pas un sourire, pas un tressaillement. Alors le monsieur, qui était commis voyageur, offrit par farce des bretelles à ses dames, et s'emparant d'un de ses paquets, il l'ouvrit. C'était une ruse. Le paquet contenait des jarretières. Il y en avait en soie bleue, en soie rose, en soie rouge, en soie violette, en soie mauve, en soie ponceau, avec des boucles de métal formées par deux amours, enlacées, dorées. Les filles poussèrent des cris de joie, puis examinèrent des échantillons, reprises par la gravité naturelle à toute femme qui tripote un objet de toilette. Elles se consultaient de l'œil ou d'un mot chuchoté, se répondaient d'eux-mêmes. Et madame maniait avec envie une paire de jarretelles orangées, plus larges, plus imposantes que les autres, de vraies jarretières de patronne. Le monsieur attendait, nourrissant une idée. « Allons, mes petites chattes, il faut les essayer !» Ce fut une tempête d'exclamations, et elles serraient leurs jupes contre leurs jambes, comme si elles eussent craint des violences. Lui, tranquille, attendait son heure. Il déclara « Vous ne voulez pas, je remballe !» Puis finement, j'offrirai une paire au choix à celles qui feront l'essai. Mais elle ne voulait pas, très digne, la taille redressée. Les deux pompes, cependant, semblaient si malheureuses qu'il leur renouvela la proposition. Flora Balançoire, surtout, torturée de désir, hésitait visiblement. Il la pressa. « Vas-y, ma fille, un peu de courage. Tiens, la paire lila, elle ira bien avec ta toilette. » Alors elle se décida et, relevant sa robe, montra une forte jambe de vachère, mal serrée en un bas grossier. Le monsieur, se baissant, accrocha la jarretière sous le genou d'abord, puis au-dessus, et il chatouillait doucement la fille pour lui faire pousser des petits cris avec de brusques tressaillements. Quand il eut fini, il donna la paire lila et demanda « À qui le tour ?» Toutes ensemble s'écrièrent « À moi ! À moi !» Il commença par Rosa Larosse, qui découvrit une chose informe, toute ronde, sans cheville, un vrai boudin de jambes, comme disait Raphaël. Fernande fut complimentée par le commis voyageur qu'enthousiasmèrent ses puissantes colonnes. Les maigres tibias de la belle juive eurent moins de succès. Louise Cocotte, par plaisanterie, coiffa le monsieur de sa jupe, et madame fut obligée d'intervenir pour arrêter cette farce inconvenante. Enfin, madame elle-même tendit sa jambe, une belle jambe normande, grasse et musclée. Et le voyageur, surpris et ravi, ôta galamment son chapeau pour saluer ce maître mollet en vrai chevalier français. Les deux paysans, figés dans l'ahurissement, regardaient de côté d'un seul œil. Et ils ressemblaient si absolument à des poulets que l'homme aux favoris blonds, en se relevant, leur fit dans le nez « Cocorico !» ce qui déchaîna de nouveau un ouragan de gaieté. Les vieux descendirent à Motteville avec leurs paniers, leurs canards et leurs parapluies. Et l'on entendit la femme dire à son homme en s'éloignant « C'est des traînées qui s'en vont encore à ce satané Paris !» Le plaisant commis porte-balle descendit lui-même à Rouen après s'être montré si grossier que madame se vit obligée de le remettre vertement à sa place. Elle ajouta comme morale, « Ça nous apprendra à causer au premier venu. » À Oissel, elles changèrent de train et trouvèrent à une gare suivante M. Joseph Rivet qui les attendait avec une grande charrette pleine de chaises et attelée d'un cheval blanc. Le menuisier embrassa poliment toutes ces dames et les aida à monter dans sa carriole. Trois s'assirent sur trois chaises au fond. Raphaël, madame et son frère sur les trois chaises de devant. Et Rosa, n'ayant point de siège, se plaça tant bien que mal sur les genoux de la grande Fernande. Puis l'équipage se mit en route. Mais aussitôt, le trot saccadé du bidet secoua si terriblement la voiture que les chaises commencèrent à danser. Jetant les voyageuses en l'air, à droite, à gauche, avec des mouvements de pantin, des grimaces effarées, des cris d'effroi, coupés soudain par une secousse plus forte, elles se cramponnaient aux côtés du véhicule, les chapeaux tombaient dans le dos, sur le nez ou vers l'épaule, et le cheval blanc allait toujours, allongeant la tête et la queue droite, une petite queue de rat sans poil dont il se battait les fesses de temps en temps. Joseph Rivet, un pied tendu sur le brancard, l'autre jambe repliée sous lui, les coudes très élevés, tenait les rênes. Et de sa gorge s'échappait à tout instant une sorte de gloussement qui, faisant dresser les oreilles au bidet, accélérait son allure. Des deux côtés de la route, la campagne verte se déroulait. Les colzas en fleurs mettaient de place en place une grande nappe jaune ondulante, d'où s'élevait une saine et puissante odeur, une odeur pénétrante et douce, portée très loin par le vent. Dans les seigles déjà grandes et bluées, montraient leurs petites têtes azurées que les femmes voulaient cueillir, mais M. Rivet refusa d'arrêter. Puis parfois un champ tout entier semblait arrosé de sang, tant les coquelicots l'avaient envahi. Et au milieu de ces plaines colorées ainsi par les fleurs de la terre, la carriole, qui paraissait porter elle-même un bouquet de fleurs aux teintes plus ardentes, passait au trot du cheval blanc, disparaissait derrière les grands arbres d'une ferme, pour reparaître au bout du feuillage et promener de nouveau à travers les récoltes, jaunes et vertes, piquées de rouge ou de bleu, cette éclatante charretée de femmes qui fuyait sous le soleil. Une heure sonnait quand on arriva devant la porte du menuisier. Elles étaient brisées de fatigue et pâles de faim, n'ayant rien pris depuis le départ. Madame Rivet se précipita, les fit descendre l'une après l'autre, les embrassant aussitôt qu'elles touchaient terre. Et elle ne se lassait point de bécoter sa belle-sœur qu'elle désirait accaparer. On mangea dans l'atelier débarrassé des établis pour le dîner du lendemain. Une bonne omelette que suivit une andouille grillée, arrosée de bon cidre piquant, rendit la gaieté à tout le monde. Rivet, pour trinquer, avait pris un verre. Et sa femme servait, faisait la cuisine, apportait les plats, les enlevait, murmurant à l'oreille de chacune « En avez-vous à votre désir ?» Des tas de planches dressées contre les murs et des empilements de copeaux balayés dans les couloirs répandaient un parfum de bois varlopé, une odeur de menuiserie, ce souffle résineux qui pénètre au fond des poumons. On réclama la petite, mais elle était à l'église et ne devant rentrer que le soir. La compagnie alors sortit pour faire un tour dans le pays. C'était un tout petit village que traversait une grande route. Une dizaine de maisons rangées le long de cette voie unique abritaient les commerçants de l'endroit, le boucher, l'épicier, le menuisier, le cafetier, le savetier et le boulanger. L'église, au bout de cette sorte de rue, était entourée d'un étroit cimetière. Et quatre tilleuls démesurés plantés devant son portail l'ombrageaient tout entière. Elle était bâtie en silex taillé, sans style aucun, et coiffée d'un clocher d'ardoise. Après elle, la campagne recommençait, coupée çà et là de bouquets d'arbres cachant les fermes. Rivet, par cérémonie, et bien qu'en vêtements d'ouvrier, avait pris le bras de sa sœur qu'il promenait avec majesté. Sa femme, tout émue par la robe à filets d'or de Raphaël, s'était placée entre elle et Fernande. La boulotte Rosa trottait derrière elle avec Louise Cocotte et Flora Balançoire qui boitaillaient, exténuées. Les habitants venaient aux portes. Les enfants arrêtaient leur jeu. Un rideau soulevé laissait entrevoir une tête coiffée d'un bonnet d'indienne. Une vieille abéquille et presque aveugle se signa comme devant une procession. Et chacun suivait longtemps du regard toutes les belles dames de la ville, qui étaient venues de si loin pour la première communion de la petite à Joseph Rivet. Une immense considération rejaillissait sur le menuisier. En passant devant l'église, elles entendirent des chants d'enfants. Un cantique crié vers le ciel par des petites voix aiguës, mais madame empêcha qu'on entrât, pour ne point troubler ses chérubins. Après un détour dans la campagne et l'énumération des principales propriétés, du rendement de la terre et de la production du bétail, Joseph Rivet ramena son troupeau de femmes et l'installa dans son logis. La place étant fort restreinte, on les avait réparties deux par deux dans les pièces. Rivet, pour cette fois, dormirait dans l'atelier, sur les copeaux. Sa femme partagerait son lit avec sa belle-sœur, et dans la chambre à côté, Fernande et Raphaël reposeraient ensemble. Louise et Flora se trouvaient installées dans la cuisine sur un matelas jeté par terre. Et Rosa, occupée seule, un petit cabinet noir au-dessus de l'escalier, contre l'entrée d'une soupente étroite où coucherait cette nuit-là la communiante. Lorsque rentra la petite fille, ce fut sur elle une pluie de baisers. Toutes les femmes la voulaient caresser, avec ce besoin d'expansion tendre, cette habitude professionnelle de chatterie qui, dans le wagon, les avait fait toutes embrasser les canards. Chacune l'assit sur ses genoux, mania ses fins cheveux blonds, la serra dans ses bras en des élans d'affection véhémente et spontanée. D'enfant bien sage, toute pénétrée de piété, comme fermée par l'absolution, se laissait faire, patiente et recueillie. La journée ayant été pénible pour tout le monde, on se coucha bien vite après dîner. Ce silence illimité des chants qui semblent presque religieux enveloppait le petit village. Un silence tranquille, pénétrant et large jusqu'aux astres. Les filles, accoutumées aux soirées tumultueuses du logis public, se sentaient émues par ce muet repos de la campagne endormie. Elles avaient des frissons sur la peau, non de froid, mais des frissons de solitude, venus du cœur inquiet et troublé. Sitôt qu'elles furent en leur lit, deux par deux, elles s'étreignirent, comme pour se défendre contre cet envahissement du calme et profond sommeil de la terre. Mais Rosa Larosse, seule en son cabinet noir et peu habituée à dormir les bras vides, se sentit saisie par une émotion vague et pénible. Elle se retournait sur sa couche, ne pouvant obtenir le sommeil, quand elle entendit, derrière la cloison de bois contre sa tête, de faibles sanglots comme ceux d'un enfant qui pleure. Effrayée, elle appela faiblement. Et une petite voix entrecoupée lui répondit. C'était la fillette qui, couchant toujours dans la chambre de sa mère, avait peur en sa soupente étroite. Rosa, ravie, se leva et doucement, pour ne réveiller personne, alla chercher l'enfant. Elle l'amena dans son lit bien chaud, la pressa contre sa poitrine en l'embrassant, la dorlota, l'enveloppa de sa tendresse aux manifestations exagérées, puis, calmée elle-même, s'endormit. Et jusqu'au jour, la communiante reposa son front sur le sein nu de la prostituée.